Il est 19h, vous êtes sur Europe 1.
C'est pas 400 personnes qui sont parties, c'est beaucoup plus. Psychologiquement, ça va plus. Après, on aime cette vallée. Et là, maintenant, s'il annonce de la neige, beaucoup de personnes vont partir en plus.
Deux mois après le passage de la tempête Alex, 20% des habitants des vallées de la Roya et de la Vésubie ont choisi de partir. Ils quittent à regret cette région meurtrie.
Europe 1, de retour sur place, dans ces villages qui se reconstruisent tout doucement et qui appréhendent l'arrivée de l'hiver.
Le Royaume-Uni, premier pays du monde, a autorisé le vaccin Pfizer et BioNTech. Les premières doses seront délivrées dès la semaine prochaine.
L'horizon s'éclaircit, mais l'économie française devrait rester ce mois-ci encore 8% sous son niveau d'avant l'épidémie, estime aujourd'hui l'INSEE.
2020, une année décidément particulière. L'une des trois années les plus chaudes de la décennie qui s'achève, avec des conséquences dramatiques pour l'écosystème, nous dira Didier François.
La condition des femmes au Cameroun, au cœur du roman de Djalil Amadou Amal, récompensé du prix Goncourt des lycéens.
Et puis ne l'appelez plus Hélène, mais Elliot, l'actrice canadienne Ellen Page, brise un tabou, elle est transgenre et très heureuse.
La tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint. Il va faire froid demain, même très froid.
Oui, nous aurons des gelées dans le sud et à l'est. Dans l'après-midi, les températures seront les mêmes qu'aujourd'hui. Et dans le ciel, ça sera très agité, gris et pluvieux. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était il y a deux mois tout juste. La tempête Alex s'abattait sur les vallées de la Vésubie et de la Roya dans les Alpes-Maritimes et laissait derrière elle un paysage de désolation.
Des maisons englouties, des ponts effondrés sous la violence des flots, des villages méconnaissables, coupés du monde, des corps exhumés des cimetières, 9 morts, 9 personnes portées disparues, des milliers de personnes qui ont tout perdu. Deux mois plus tard, les habitants sont encore sous le choc et certains ont même décidé de quitter la région. Frédéric Michel est retourné à Tende, où l'on estime que 20% de la population est partie ou sur le départ.
On voit beaucoup de camions de déménagement qui s'en vont. Là, je pars avec le camion.
Et on peut parler, oui, de véritable exode. Le haut de la vallée, c'est un peu plus de 3000 habitants. Et entre les sinistrés qui ont tout perdu et ceux qui, traumatisés par la catastrophe, ne veulent plus vivre dans ces montagnes, ils sont des centaines déjà à être partis. Le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo.
Moi, j'ai évacué 60 maisons. Des gens que je côtoie tous les jours, quand je suis allé chez eux, leur porter cet arrêté pour leur dire « Tu dois quitter ton domicile ». C'est quelque chose de terrible. Mais pour ces gens, l'attente, elle commence à être longue parce qu'ils ne savent pas encore quelle sera la décision finale concernant leur maison.
Mais l'arrêté couvrant les glissements de terrain tarde, les sinistrés ne peuvent pas engager les démarches pour être indemnisés. Certains ne voient qu'une solution, mettre la clé sous la porte. Voilà ce que s'apprête à faire cette commerçante de Tende, épuisée par ces deux longs mois.
C'est pas 400 personnes qui sont parties, c'est beaucoup plus. Psychologiquement, ça va plus. Après, on aime cette vallée. Et là, maintenant, s'il annonce de la neige, beaucoup de personnes vont partir en plus.
La neige, justement, elle a commencé à tomber hier soir. Tout le monde craint un hiver rude et d'être à nouveau coupé du monde. La ligne SNCF est d'ailleurs à l'arrêt depuis vendredi. Et la piste, avec de nombreux passages à gué créés provisoirement pour rompre Tende de l'isolement, cette piste risque d'être impraticable en cas d'intempérie.
Le reportage de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est.
Le Royaume-Uni prend tout le monde de vitesse, à peine sorti d'un confinement de 4 semaines.
Le gouvernement britannique autorise la mise sur le marché du vaccin anti-Covid des laboratoires Pfizer et BioNTech.
Oui, les choses ne traînent pas puisque les premières doses seront délivrées dès la semaine prochaine.
Une rapidité qui ne surprend pas pourtant Jean-Daniel Lelièvre. Il est chef du service d'immunologie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
Il n'y a pas d'emballement. Il y a une demande d'autorisation qui a été faite pour l'Europe. Alors le Royaume-Uni, vous savez, avec le Brexit, a quitté l'Europe, donc à sa propre autorisation qui est en cours. Mais c'était attendu. On a toutes les données qui étaient le prérequis pour avoir cette autorisation sur le marché. C'est-à-dire une efficacité qui était au moins de 50%. On sait qu'avec ce vaccin, l'efficacité est bien supérieure, probablement aux alentours de 95%. Et un recul sur la tolérance de ce vaccin, qui était demandé par les différents pays et par l'OMS, d'au moins 2 mois sur plus de 3000 sujets qui étaient vaccinés. Et on a, avec le vaccin Pfizer, plus de 2 mois, avec plus de 15 000 personnes qui sont vaccinées. Les autorisations ont été données par des experts qui ont eu accès à l'ensemble des données. Donc, s'ils ont donné cette autorisation, c'est qu'ils avaient tous les garde-fous.
Le chef du service d'immunologie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil avec Victor Dolande. On apprend qu'une campagne de tests massive sera expérimentée en France, à Lille, à Saint-Étienne et au Havre. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Emmanuel Macron devant le président et les représentants des groupes politiques du Sénat.
Et alors que la course au vaccin fait rage, cette mise en garde d'Interpol.
Falsification, contrefaçon, vol, attention, les réseaux du crime organisé s'intéressent au vaccin contre le Covid-19. La pandémie a déclenché un comportement opportuniste sans précédent. De faux vaccins circulent, paraît-il déjà.
Oui, les autorités doivent donc être très vigilantes pour garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, identifier les sites internet illicites qui vendent des produits contrefaits.
Un pilotage défaillant de la crise sanitaire en France, l'État désarmé, conclusion sévère de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise du Covid qui a remis aujourd'hui son rapport. Ils saisissent le Conseil d'État. Les professionnels de la montagne et des élus alpins dénoncent la fermeture des remontées mécaniques dans les stations françaises pour les vacances de Noël.
Oui, et on l'a entendu, ils sont soutenus par...
Laurent
Wauquiez, merci, j'avais un trou de mémoire tout d'un coup. Ils estiment qu'il y a trop d'incohérences de la part du gouvernement et trop d'emplois en jeu et espèrent obtenir gain de cause.
Et plus de 2000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Bourg-Saint-Maurice pour réclamer le droit de travailler en dépit du veto gouvernemental.
Un accord a enfin été trouvé ce soir entre le gouvernement et les représentants des hôtels, cafés et restaurants sur la question sensible du coût des congés payés acquis par les salariés pendant leur période de chômage partiel.
Vous savez qu'on en avait beaucoup parlé, et bien l'État finalement prendra intégralement en charge jusqu'à 10 jours de congés payés, à condition qu'ils soient posé entre le 1er et le 20 janvier prochain. Mesure qui coûtera plusieurs centaines de millions d'euros à l'État, qui concernera tous les établissements qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, les bars, les restos, les salles de sport, mais aussi les entreprises qui, pendant cette période d'urgence sanitaire, ont pu rester ouvertes, mais qui ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 90%. C'est le cas en particulier d'un très grand nombre d'hôtels.
Après avoir souffert en novembre, confinement oblige, l'activité économique va retrouver un peu de couleur au mois de décembre, sans toutefois revenir à la normale, ne rêvons pas. C'est l'INSEE qui fait ce pronostic. Chiffre à l'appui, Olivier Samin.
Oui, au mois de novembre, avec des bars, des restaurants, des commerces non essentiels fermés, sans oublier les cinémas et les salles de spectacle, l'activité a été en recul de 12% par rapport à ce qu'elle est traditionnellement à cette période de l'année. Elle ne va pas retrouver un niveau normal en décembre, car il y a encore des activités interdites, mais le recul va s'atténuer. Il sera de 8%, pronostic l'INSEE. Et c'est principalement la consommation qui explique cette éclaircie. Elle sera certes encore en baisse par rapport à la situation qui prévalait avant la crise, une baisse de moins 6%, entrevoit l'INSEE, mais le repli sera nettement moins fort qu'au mois de novembre où les achats des ménages affichaient moins 14%. Pour sortir ses prévisions, l'INSEE s'appuie sur ses données habituelles, mais aussi sur des indicateurs qui permettent de mieux mesurer la réactivité des comportements, comme par exemple les transactions par carte bancaire ou l'évolution des requêtes sur Google. On apprend ainsi que les recherches autour des mots « train » et « vol » sont reparties à la hausse vers la fin novembre, tout comme les requêtes « cinéma » et « théâtre ». Il y a même aussi un frémissement des requêtes « restaurant » et « hôtel », alors qu'on sait que les restaurants ne pourront rouvrir au mieux que le 20 janvier.
Olivier Samin du service Écho d'Europe 1 a noté que pour l'ensemble de l'année 2020, l'INSEE maintient sa prévision d'un PIB en baisse de 9%.
2020, sur le podium des années les plus chaudes. Et oui, l'ONU alerte, il y a au moins une chance sur 5 pour que d'ici 2024, l'augmentation de la température dépasse le seuil fatidique des 1,5 degré de l'accord de Paris.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Un changement climatique qui représente une menace pour les sites naturels du patrimoine mondial et particulièrement pour les forêts, on pense à l'Australie ou à l'Amazonie.
Oui, écoutez, l'Amazonie, c'est la surface de la taille une surface d'un pays de la taille du Liban qui est parti en fumée, du jamais vu depuis 12 ans. Et on parle d'un des principaux poumons de la planète, l'une des trois forêts primaires encore existantes, qui, avec les mers et les océans, produisent l'essentiel de l'oxygène nécessaire à la vie sur Terre. Et tout ceci, évidemment, alimente un terrible cercle vicieux parce que plus d'incendies, eh bien, c'est plus de dégagement de gaz à effet de serre et donc une augmentation du réchauffement climatique qui est la première cause de ces méga feux de forêt. Dans la région du Pantanal, par exemple, la température durant la saison chaude a été de 40 degrés quotidienne en moyenne. Et ça a séché tous les marais, les lacs, les rivières et provoqué des vents extrêmement violents. Ben, résultat, 16 000 départs de feu cette année contre 6 000 l'an passé.
Mais au Brésil, le changement climatique n'est pas seul en cause.
Absolument. Il y a aussi un autre gros facteur, évidemment, c'est la politique climato-sceptique du président Jair Bolsonaro qui a décidé de lever les règles environnementale qui protégeait la jungle amazonienne et puis ses parcs naturels et ses populations indigènes. L'Amazonie est pour lui une sorte d'Eldorado économique et il a encouragé l'exploitation minière, forestière et agricole de manière massive, ce qui a grandement accéléré ce saccage puisque le taux de déboisement a été multiplié par deux depuis son accession au pouvoir, au point que le Brésil devrait être cette année le seul pays au monde à avoir augmenté ces émissions de gaz à effet de serre, malgré le ralentissement économique provoqué par la pandémie.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20.
Julien Bugier.
La suite du journal 19h12 avec Isabelle Millet. C'est un coming out qui fait beaucoup parler, celui de l'actrice canadienne Ellen Page.
Ah oui, qui a reçu une nomination aux Oscars pour avoir joué dans Juno en 2007 et qui tient le rôle principal dans la série de Netflix The Umbrella Academy. Ellen Page s'appelle désormais Elliot. Elle l'annonce sur les réseaux sociaux. Elle est transgenre, c'est un témoignage courageux, Angèle Châtelier.
Oui, publié sur la forme d'un texte. « Vous pouvez me nommer par les pronoms il ou yel et mon nom est Elliot », écrit-il dès le début. C'est courageux, oui, car les personnalités à se revendiquer trans sont rares. Il y a eu Laverne Cox, actrice dans la série Orange is the New Black, ou encore l'animatrice américaine Caitlyn Jenner. Mais pour Agnès Conda, pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière, plus les personnes connues prendront la parole sur ce sujet, plus les personnes trans, elles seraient 15 000 en France, seront considérées.
Je pense que c'est important qu'il y ait peut-être plus de visibilité, qu'il y ait aussi des personnalités qui fassent leur coming out de façon positive, parce que ce que je constate moi avec les jeunes dont je m'occupe, c'est que la transition, qu'elle soit sociale, médicale et ou chirurgicale, c'est un épanouissement de la personne.
Mais dans son texte, Elliot Page évoque aussi ses peurs face aux difficultés d'être une personne trans aujourd'hui. Il rappelle les envies suicidaires plus élevées que la moyenne et surtout les actes de violence. Selon un rapport de SOS Homophobie, les témoignages d'agression à l'encontre des personnes trans en France ont augmenté de 130% en un an.
Merci beaucoup Angèle Châtelier.
Dans la série des prix littéraires à présent, il est l'un des plus attendus, l'un de ceux aussi qui garantit d'être en bonne position dans les librairies.
Et oui, le Goncourt des lycéens a été décerné cet après-midi à Djaïli Amadou Amal pour son roman Les Impatientes, paru chez Emmanuel Collat. C'est un livre qui raconte l'histoire de trois femmes dont les destins se croisent, Nicolas Carreau.
Oui, ça se passe au Cameroun. Les trois femmes, les voici. Ramla d'abord. Elle est adolescente et elle est mariée de force à un homme de 50 ans, un notable. Elle en aime un autre, mais peu importe, il s'agit de ne pas déshonorer la famille. Cet homme, il est déjà marié à Safira, 35 ans. C'est la deuxième femme du roman. Elle n'est pas vraiment enchantée de voir débarquer Ramla. Et puis il y a Hindou, c'est la sœur de Ramla, mariée de force elle aussi à un homme violent cette fois. Et quand elles osent émettre une petite plainte, on leur répond « patience, patience ». Or, elles sont impatientes ces femmes-là, comme le titre du roman l'indique. J'ai demandé à Clémence Nominé, la présidente du jury des lycéens, pourquoi ils avaient aimé ce livre.
Sa sensibilité, les scènes, il y a trop de choses à dire. Les lecteurs se sont sentis vraiment témoins, je pense, de ça. Et, par exemple, quand Ramla se fait maltraiter par son mari, on est choqué, on se dit « heureusement que je ne suis pas à sa place ». Le fait que ce soit en plus une œuvre quasi autobiographique, je trouve ça courageux de sa part d'avoir écrit un livre comme ça.
Djaïli Amadou Amal était très émue cet après-midi à l'annonce du résultat. Elle a répondu aux lycéens que les jeunes choisissent ce livre représente un espoir pour l'avenir.
Nicolas Carreau, spécialiste littérature d'Europe 1, Djaïli Amadou Amal, qui sera demain matin l'invité de Mathieu Béliard sur Europe 1 à 7h40.
En foot, la Ligue des Champions, déplacement crucial pour le PSG sur le terrain de Manchester United. C'est à vivre en direct et en intégralité ce soir sur Europe 1.
Le coup d'envoi, c'est à 21h. Grande soirée foot à partir de 20h, tandis que Rennes espère se consoler à Krasnodar avec la Ligue Europa. Ça se passe en ce moment. Les Bretons jouent depuis 20 minutes et pour l'instant, toujours 0 partout.
Eh bien, c'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. À demain. La météo avec Anissa qui nous annonce du vent. Ça souffle fort demain, ma chère
oui,
Anissa.
Il va falloir vraiment s'y attendre de côté de la côte atlantique demain, avec des rafales qui vont vraiment s'accentuer dans l'après-midi jusqu'à 80 km/h. Demain, il va vous falloir un parapluie et un bonnet, parce que c'est l'hiver sur l'ensemble du pays. Sur les trois quarts de la France, nous aurons un temps agité, couvert et pluvieux. Il n'y a finalement que dans le sud-est, au bord de la Méditerranée et en Corse, que la journée sera belle et ensoleillée. Ailleurs, de la Nouvelle-Aquitaine au nord, le temps est perturbé, pluvieux, des pluies qui vont s'intensifier dans la journée. Toujours de la neige sur les reliefs. Les températures demain matin, moins 5 à 7 degrés le matin et 4 à 14 au meilleur de la journée. Nous aurons 4 degrés à Belfort l'après-midi, 9 à Paris et 14 pour Bastia.
Retenu. Merci, ma chère Anissa. À demain.
À demain.